Le théâtre, le théâtre. Voulez-vous savoir ce que c'est que le théâtre?
Le théâtre, c'est un art du moment. On est en rapport direct avec les spectateurs.
Pièce détachée, il faut que le théâtre présente une autre forme, une autre manière de vivre.
Sur Radio Campus Paris.
Le théâtre est pour tout le monde, pour vous comme pour les autres. Faut pas être exclusif.
Vous êtes sur Radio Campus Paris 93.9 et c'est Pièces détachées, l'émission du spectacle vivant à la radio dans l'Île-de-France, voire au-delà. Et ben bienvenue. Ce soir, nous allons, comme d'habitude, avoir un entretien. Avec Emmanuel Schwartz pour le Tigre bleu de l'Euphrate, suivi de chroniques. On parlera de Oui, de Cécile Pote à la Colline. On parlera également du Festival 24, des rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis, des scènes ouvertes à l'insolite, et on aura une capsule surprise. Vous verrez ça tout à l'heure. On commence directement avec l'entretien. Alors, Michel, la parole est à toi.
Oui, merci. Bonjour. Alors, je vais essayer de vous faire un petit pitch de ce qu'on a vu pour que vous compreniez où on met les pieds. Donc, la semaine dernière, nous sommes allés voir Julien et moi le Tigre bleu de l'Euphrate au Théâtre de la Colline. Alors, c'est un seul en scène avec Emmanuel Schwartz que nous avons donc la chance de recevoir ce soir. Il est là devant moi.
Salut, salut.
Donc, je pense pouvoir dire que la pièce est, une fois n'est pas coutume, assez facile à résumer. Donc en gros, je vais essayer de le faire en quelques phrases.
Et non seulement on peut la résumer sans trahir grand-chose.
Ouais, exactement. Donc Alexandre le Grand, hein, le conquérant qui a mis sous sa coupe tout le bassin méditerranéen et qui a même frôlé l'Inde, est mourant. Il éloigne tous ses médecins, ses fidèles, car il souhaite s'entretenir seul à seul avec la mort, avec Hadès, le dieu des ténèbres. Peut-il, lui, mourir comme le commun des mortels? Donc que veut-il lui dire? Qu'y a-t-il à lui dire? C'est cette apostrophe à la mort que vous déployez sur scène, Emmanuel Schwartz. C'est bien ça?
Tout à fait.
Voilà. Donc, je vais poser une question bébête au départ, parce que je ne l'ai pas comprise. Enfin, j'ai cru la comprendre, mais finalement, je n'ai toujours pas compris. Donc, le titre, c'est « Le tigre bleu de l'Euphrate ». Le tigre bleu, le tigre, il y a l'Euphrate et le tigre. J'avais deux fièvres, mais finalement, c'est un vrai tigre qu'il y a dans la pièce. C'est une espèce de parabole. Pourquoi ce n'est pas un éléphant vert, par exemple?
J'ai l'impression que l'appétit d'Alexandre correspond davantage à une sorte de félin carnassier plutôt qu'à un herbivore, ça c'est sûr.
Donc finalement ça marche bien avec l'autre fleuve, donc c'est simplement une sorte d'évocation.
Oui, semble-t-il qu'il... C'est pas Laurent qui a inventé cette bête, hein. Elle existe... à savoir si elle est réellement répertoriée dans le monde animal, ça je peux pas vous le dire, mais c'est pas Laurent qui a inventé cette bête.
Donc, elle existe autour de l'histoire d'Alexandre le Grand.
Elle est représentée dans les fresques. Elle est peinte.
Voilà, je comprends. Je me disais bien qu'il y avait quelque chose qui était au-delà du tigre et de l'Euphrate, parce que au bout d'un moment, c'est évoqué que Alexandre le Grand passe le tigre, mais on ne fait pas du tout de référence à ce moment-là à l'autre tigre qui est le tigre bleu.
Oui, bien sûr.
Oui, d'accord. Bien sûr. J'ai bien compris que c'était sans rapport. Mais c'est parce que c'est donc représenté sur des fresques.
Oui, tout à fait.
Okay. Alors, évidemment, la première question, donc c'est un spectacle, je l'ai dit, qui a été monté avec Denis Marlowe. Donc c'est quelqu'un que vous connaissez déjà depuis pas mal de temps.
Oui, ça fait presque 10 ans qu'on bosse ensemble. 10 ans même cette année, je pense que la première proposition qu'il m'a faite date de 2014. On a fait un Tartuffe ensemble au Théâtre du Nouveau Monde à Montréal.
Ouais.
Et puis la proposition du Tigre Bleu est venue très rapidement. Je pense que même quand on s'est rencontrés pour parler de Tartuffe, il m'a dit je traîne un texte depuis un moment.
Ouais.
Et puis je me demandais avec qui j'allais faire ça. Et puis... c'était moins chanceux, finalement.
On a l'impression que le rôle est taillé pour vous. Comment vous avez pu interagir? Parce que donc, dans ce seul en scène, évidemment, vous portez tout le personnage et toute la pièce. Mais on peut se poser la question de comment intervient là-dedans le réalisateur, enfin le metteur en scène, pardon, dans ce rapport. Est-ce qu'en fait, il fait émerger chez vous quelque chose ou est-ce qu'il vous laisse libre cours? Est-ce qu'il est insistant? Comment ça se passe?
Ben ici, je peux vraiment parler d'un rapport magistral. Parce que, puis vous me parliez d'un entretien que j'ai fait avec la Colline tout dernièrement, où je mentionne ça aussi, mais le Tigre Bleu a vraiment été l'occasion, plus que la production qu'on a faite ensemble avant, Tartuffe, ça a vraiment été l'occasion pour entrer dans l'univers de Denis, pour moi, dans sa manière de travailler, dans sa manière de diriger. Et puis je peux vraiment dire que ça a été une seconde école, quoi, parce que c'est quelqu'un qui dirige de manière extrêmement particulière, de manière extrêmement précise. Et bon, ce serait peut-être trop de dire qu'on s'est séparé les territoires de la parole et du corps, mais il y avait certainement un dialogue comme ça entre lui et moi, où il me guidait vers des rythmes, des manières d'incarner ce texte très très particulier, hein, qui est d'ailleurs écrit avec une je dirais pas une langue ancienne, mais une langue extrêmement soutenue,
oui.
Une langue riche, fleurie même, on pourrait dire. Donc Denis m'a tranquillement acclimaté à cette langue, et puis moi de mon côté, ben j'amenais peut-être un corps pour porter cette douleur, cette chorégraphie.
Ouais.
Et puis ça a vraiment été une rencontre assez formidable entre nous. Je suis vraiment privilégié d'avoir pu passer plusieurs mois avec lui seul à seul, mais aussi pas mal de temps avec Laurent Godet,
ouais.
En tout début de processus.
Ouais, donc qui est donc l'écrivain du récit.
C'est étrange, cette façon que vous avez de le décrire. On a presque l'impression que vous êtes juste guidé, voire téléguidé. Et pourtant, quand on est dans la salle, quand on vous voit sur scène, on sent bien que vous vous appropriez complètement ce texte, que vraiment vous le faites vôtre. Vous n'êtes pas juste là à le faire passer.
Merci, je le prends comme un compliment. Il faut, je crois que c'est un peu le. Si on sent que les acteurs dans un seul en scène ou dans une pièce à plusieurs ne sont que les vecteurs et qui ne sont pas du tout créateurs, j'ai l'impression qu'on rate quelque chose quand même. Surtout. Bon, peut-être que dans une création contemporaine, on a l'impression que les gens sur scène se font vecteurs de pensées contemporaines, mais quand on s'attaque à des grands drames de l'histoire comme ça, je pense qu'il faut sentir que on se le réapproprie et qu'on l'actualise d'une certaine façon.
Ah, mais alors, je vais vraiment à droit fil de votre réponse là. Je me suis justement posé cette question. Est-ce que vous devez vivre, vous devez incarner le personnage finalement d'Alexandre Legrand, c'est-à-dire que vous êtes à ce moment-là Alexandre Legrand, c'est votre objectif d'une certaine manière, ou est-ce que c'est autre chose qui fonctionne dans ce cas-là? Est-ce que vous avez plutôt l'idée que vous avez que ça fonde, je ne sais pas justement, est-ce que c'est plutôt une autre chose que d'incarner un personnage qui vous fait fonctionner?
Ben, c'est un concept compliqué, hein, l'incarnation, de toute façon. Et j'imagine que chacun a sa façon de faire. Pour ma part, j'ai jamais l'impression, quand on me dit « il faut que tu vives il faut que tu te plonges dans la psyché du personnage, il faut que tu vives dans le corps du personnage », moi, ça me dit rien. J'ai l'impression que c'est peut-être même impossible à faire. Je suis plutôt d'une école où on trouve des marqueurs,
ouais, c'est ça,
des signes qui sont différents de notre personnalité, de notre manière de bouger, et ça présente au spectateur l'illusion d'une altérité.
Ouais, voilà, c'est ça.
Et puis pour Alexandre, c'est la même chose, hein. Dans sa colère, dans sa fatigue, dans sa peine, il y a toutes sortes de choses qui m'appartiennent.
Ouais.
Mais comme on en a parlé, la manière très très particulière qu'a Denis de guider dans le rythme du texte, ça c'est quelque chose qui oui, évoque un personnage d'un autre temps.
Ouais.
Mais il n'y a pas une seconde où je dois faire me dire un mantra ou me faire une prière pour espérer channeler un autre siècle.
Ça marche.
On va se retrouver. Eh bien, c'était les Frères Misère avec On vous aura prévenu et On vous aura prévenu. Vous êtes toujours sur Radio Campus, vous écoutez Pièces Détachées, l'émission du spectacle vivant, et nous sommes toujours avec Emmanuel Schwartz pour le Tigre Bleu de l'Euphrate à la colline.
Alors moi je voudrais revenir sur un truc que je sais que vous évoquiez un peu derrière, c'est sur la musicalité du spectacle. Je pense que ça c'est un point important, même si je ne l'ai pas décelé pendant le spectacle, mais j'ai vu effectivement une interview, je vois que vous en parliez ici aussi, sur le rapport à la musicalité. Bon, de manière générale, il y a, je pense, effectivement aussi quelque chose d'autre que vous évoquez pas d'ailleurs dans cette interview, qui est, pas dans celle-ci, mais dans l'autre, celle qui est votre, celle des corps, en fait, une sorte de chorégraphie aussi qui est quand même extrêmement forte finalement. Donc ça, vous dites, ça fait partie du rapport spécial, non,
avec le metteur en scène. Ouais, oui,
c'est constant.
Ah oui, même là, on l'a vécu sur Terrasse, le spectacle qui joue dans l'autre salle, auquel je fais dans lequel je fais une toute petite apparition à la fin, après avoir fait le Tigre Bleu. Et là, il y avait des jeunes acteurs qui avaient jamais travaillé avec Denis et ils étaient assez saisis par ces expressions qui reviennent souvent dans sa bouche, surtout l'état rythmique. Hein, donc faire entendre une voix, faire entendre un état, pour lui, c'est réellement pratiquement comme une notation musicale. Donc il va dire souvent « fais des rondes, fais des blanches, fais des noires, c'est staccato, c'est piano ».
Faut de bonne musique. Hein.
Ouais. Et même dans le Tigre Bleu, c'était une grande dramaturge qui s'est spécialisée, je crois, dans la traduction de textes romains avec qui Denis avait travaillé à la Comédie-Française. Ils ont fait un Agamemnon ensemble, Lafont, je crois, qui lui a ouvert la porte sur un monde d'expression qui décrivent des états dans la tragédie, donc le dolor, le furor, le néfaste, et ça ce sont des expressions qui se sont ajoutées pour nous, je dirais dans le Tigre Bleu particulièrement, donc peut-être que dans Terrasse
qu'on voit plus à la fin, mais en fait qui ont parcouru la mise en scène,
voilà, et qui qui aide à circonscrire, je dirais, des changements de voix.
Ouais.
Par exemple, il y a un moment où Alexandre assiste à sa flotte, son armada qui coule.
Ouais.
Et voilà, je me retrouve voilà, tête à l'envers, à tenter de sauver des hommes qui se noient. Et là, il y a vraiment une voix particulière qui est dans un registre assez pathétique, qui exprime une grande douleur, une horreur. Ben là, en accumulant les épithètes, là, finalement, Denis dit « oui, ça, c'est le dolor ».
Ouais.
Et donc ça circonscrit, ça définit un moment très précis. C'est 8 vers dans le spectacle, mais je sais que à la page d'avant, je suis en train de préparer. Je mets en place l'appareil vocal pour que on y arrive à cette voix qui est une combinaison de voix de gorge et de voix de tête et donc qui donne une sorte de gémissement horrifié.
Je me souviens, c'est bon.
Donc de l'intérieur, moi je fonctionne toujours un peu comme ça. Après Denis, lui, il me dit trouve-moi ça. Il me dit pas tiens, tu pourrais le faire physiquement comme ceci.
Ouais.
C'est essaie de combiner par exemple l'ouverture du spectacle qui est une voix très gutturale. Il me disait simplement va le plus bas que tu peux.
Et ce sont les impératifs de la voix dans ce cas-là qui vont guider le jeu, parce que j'imagine que le corps a besoin d'être dans une certaine disposition pour atteindre cette attente de voix.
Absolument, mais comme je disais, ça s'organise un peu dans un partage des responsabilités, c'est-à-dire que moi, je tente d'intégrer, je tente de trouver cette voix que Denis intuitionne, qui correspond à différents états rythmiques, comme il dit, ou surtout des différents états émotifs du personnage, et ça inspire, ou du moins ça guide une recherche du mouvement qui a été constante là sur 3 mois. J'ai même été accompagné par une ostéopathe parce que il était question de torsion, de grande tension dans le corps, et puis bon, pour être sûr que je me blesse pas ou que voilà, que je puisse le faire dans une relative détente, donner cette impression de grande souffrance dans une relative détente, il y avait quelqu'un là pour m'accompagner, me montrer des petits exercices, ce genre de choses.
C'est bien que vous parliez de torsion et tout ça, parce que ça me fait penser au fond du spectacle. Parce que finalement, Alexandre, il est en contorsion totale là, dans cette. Il se débat aussi avec la mort. Et donc, je voulais avoir un peu votre avis et qu'est-ce que vous y voyez, vous, dans finalement tout ce que vous déclamez. Il y a la première chose qu'on a discuté, d'ailleurs Julien, c'était le fait que la mort emporte aux enfers. Enfin, Alexandre demande à la fin, en fait, finalement, je fais quand même une petite révélation, propose que la mort l'emporte aux enfers corps et âme, et non pas l'âme toute seule. Et donc, je me suis posé pourquoi il tenait à ce point son corps. Qu'est-ce que ça voulait dire? Est-ce que c'est parce qu'il veut éviter le pourrissement qui est dans le fond du problème?
Je sais pas s'il veut éviter le pourrissement, mais je crois qu'il veut éviter la banalité du corps.
Ouais, d'accord.
Ouais, il veut éviter d'être un corps parmi tant d'autres. Parce que tant qu'il était vivant, il pouvait se démarquer, cette soif, cette faim infinie, dont il parle plusieurs fois dans la pièce, est au fond une ambition maladive, une incapacité à se satisfaire de sa condition de mortel.
Oui, d'accord.
Et donc, je crois que c'est la dernière surenchère, quoi. C'est d'échapper même à la condition terrestre, d'avoir à laisser son corps à devenir poussière.
Et j'ajoutais dans la discussion justement que c'était aussi, ça pouvait aussi être vu comme le clin d'œil à ce tombeau d'Alexandre disparu.
Tout à fait. Tout à fait. Et bon, j'ai appris un mot que je trouve très beau sur cette production. Puis c'est, bon, Denis est un grand savant, donc il m'apprend toujours des mots. Mais il disait, en fait, cette scène est un catafalque, hein, qui est une chambre funéraire.
Moi, j'ai déjà entendu le mot, j'aurais été incapable de donner la définition.
Ouais, et donc, ce lieu évanescent, toujours changeant, à cause de cette magnifique vidéo que Stéphanie Jasmin a produite pour le spectacle, c'est ce catafalque spectral qui, en fait, va disparaître avec lui. Mm. Et c'est ce qu'il demande à la fin. Il dit, ne me laissez pas dans une boîte. Ne me laissez pas dans un tombeau, parce que ça, c'est banal. Les gens viennent, comme sur la tombe de Jim Morrison, prendre des photos et déposer des fleurs qui fanent.
Ouais, mais finalement, c'est quand même... En fait, je reviens quand même sur l'histoire du corps, parce que, en fait, moi, ce que ça m'a donné à penser, c'était que derrière le problème de la mort, souvent on résout le problème en disant, bah, de toute façon, le corps, on peut rien faire, mais il y a autre chose, il y a une âme, machin. Tandis que là, finalement, il résout, finalement, en demandant au dieu des enfers de l'emporter totalement, peut-être qu'il est dans un autre lieu, mais il est complet.
Oui, oui, c'est. Bah, et c'est. Bon, c'est. Laurent Godet ne propose pas
interprétation.
Oui, une interprétation théologique de l'après-vie, mais on entend aussi dans les toutes dernières répliques que dans les derniers moments de sa vie, il ne pourra plus combattre, mais il évoque cette idée qu'il sera sur son cheval bucéphale longtemps pour l'éternité, donc peut-être qu'il a besoin de son corps quoi, pour pouvoir continuer. Ouais.
Marine Le Pen, non, non, mais Marine Le Pen, non, mais tu ne crois pas, tu ne crois ça. Ouais, tu sais, c'était samedi, là, à côté de la maison de la radio. Je marchais dans la rue, et puis il y a une fille juste devant moi, avec ses grands cheveux blonds, tu vois. J'ai commencé à la suivre parce que, je sais pas, j'avais envie de baiser, puis tout d'un coup, elle s'est retournée. Et là, qu'est-ce que je vois? Putain, Marine Le Pen, non, non, Marine Le Pen, non, mais tu ne crois pas. Tu ne crois pas, putain, Marine Le Pen, non, non, mais Marine Le Pen, non, mais tu ne crois pas, tu ne crois ça.
Alors? Alors?
Alors je me dis, ok, c'est bon, je rentre chez moi, je la dépasse, et puis je marche avenue du président Kennedy jusqu'à la place de Varsovie, puis il faisait bon et c'était cool. Et puis là je me retourne, puis je la vois qui marche derrière moi, puis je commence à flipper parce que je me rends compte qu'elle me suit vraiment. Dans les jardins du Trocadéro, place de Chaillot, tout ça, je me rends compte qu'elle me suit vraiment. Métro Boissière, j'accélère, métro Clébert, et puis je la vois, elle est toujours derrière moi. Puis j'appelle un taxi, puis il est pris, et puis je commence à courir, et c'est vraiment un cauchemar. Et puis je monte, parce que j'ai pas trop le choix, je monte, et je me retrouve place de l'Étoile, et il y a plein de bagnoles, comme d'habitude, et puis elle est à 2 mètres, je sens qu'elle est à 2 mètres de moi. J'ose pas me retourner, là j'appelle un taxi, miracle, il s'arrête, je monte dedans, au dernier moment, l'horreur absurde. Marine Le Pen, non, non, Marine Le Pen, non, mais tu ne crois pas, tu ne crois pas. Fallu rester chez moi. Ce jour-là, je me suis dit qu'il aurait mieux fallu rester chez moi.
Fallu. Fallu. C'est un mot, c'est quoi? C'est assez compliqué, ça?
Non, il aurait mieux fallu. C'est conditionnel passé, première forme. Tu vois, on aurait pu dire il aurait mieux valu aussi, mais du verbe valoir. Tu t'étais plus élégant.
Alors?
Voilà.
Alors?
Putain, Marine Le Pen, non, non, Marine Le Pen, non, mais tu ne crois pas. Tu ne crois pas, putain, Marine Le Pen, non, non, mais Marine Le Pen, non, mais tu ne crois pas. Tu ne crois pas.
Y aurait-il un message? C'était Philippe Catherine avec Marine Le Pen. Vous êtes toujours sur Radio Campus 93.9 en FM et nous sommes toujours avec Emmanuel Schwartz pour Le Tigre Bleu du Bengale.
Bon. Bah alors moi
de l'Euphrate aussi.
Du Bengale.
De l'Euphrate, pardon.
Du Bengale, le tigre du Bengale.
Extrêmement. C'est le tigre du Bengale.
Désolé. Ça sera amplifié, répété. Alors, on va revenir sur Alexandre Legrand, la petite bestiole, la grosse bestiole. Alors, justement, grosse bestiole, il reste puissant jusqu'à l'article de sa mort, en fait, dans le fond. Il ne montre pas tant de faiblesse que ça, puisqu'il n'a pas peur de la mort, déjà. Il n'a pas peur non plus, finalement, qu'on... Il ne demande pas à être sauvé, il est d'accord pour mourir. Et s'il a peut-être un regret, c'est celui de ne pas avoir achevé sa conquête. Bon, le vrai Alexandre le Grand avait probablement la tête haute, hein, la virilité en bandoulière, on en est quasiment... Enfin, c'est comme ça qu'on le voit en tout cas. Mais peut-être qu'il est mort apeuré, triste, on ne sait pas. Et je pose donc la question, pourquoi est-ce que finalement dans Le Tigre de l'Euphrate, il n'y a aucune de ce de cette fragilité-là? Pourquoi est-ce qu'il n'en il en faut pas de fragilité? Pourquoi il y a quelque chose qui ne... Surtout dans un monde où justement maintenant on aime bien mettre en critique ces êtres puissants, ces virils et compagnie. Pourquoi est-ce que là, pour vous, il fallait pas ça? Il fallait justement voir ce personnage avec sa force mythique et antique dans toute sa splendeur à l'ancienne, quoi.
Bah, j'ai l'impression que c'est là que ça touche aussi à des formes plus archétypales. Mmh. Et que c'est là où on peut faire la différence, qu'on peut même se laisser toucher par cette violence des grands. Parce que si on y percevait la petitesse de nos grands à nous, peut-être qu'on n'aurait pas envie de la raconter au théâtre, cette histoire. Et on va au théâtre aussi pour être
subjugué.
Ouais, subjugué par des mythes, justement, la qualité mythique de cette soif, de ce courage, de cette ambition. Et puis moi, pour revenir un peu à comment on incarne ça, pour moi, il fallait absolument le ramener aussi à quelque chose de très faillé, hein, de quelque chose qui est très poreux, où il y a plein de bien sûr, il a plein de défauts, ce mec-là, mais son courage, sa surenchère de courage, et parfois aussi là pour masquer sa peur, hein, et pour recouvrir ses manques, et donc c'est à ce sens-là pour l'incarner, j'ai l'impression que pour trouver ses tonalités, il fallait pour vraiment nuancer cette soif qui se répète sur 10 tableaux et pendant 1h30, il fallait passer par des qualités, comme toujours avec Denis, s'exprime vocalement, mais pour trouver ces qualités vocales, il fallait passer par des qualités de doute, de crainte, d'hésitation, de folie, de perdition.
Qu'on retrouve quand même, oui.
Ouais, j'entends ce que vous dites par rapport à cet aspect lisse de son.
Ouais, qui reste en fait un personnage puissant malgré les doutes, etc. Voilà. C'est-à-dire que c'est des doutes, mais qui nourrissent quelque part sa puissance, quand même. Mais bon.
Oui, contre lesquels il se bat, quoi.
Ouais. Et alors, j'ai deux expressions, en fait, qui me sont venues à l'esprit. Il y en a une qui est directement donnée dans la pièce. Hein.
Oui.
Je voulais savoir ce que vous en pensiez face à ce spectacle. La première, c'est « On est tous égaux devant la mort ».
Ah ouais, forcément. Ouais, ça m'apparaît... c'est justement là où c'est un peu une tragédie. Hein, parce que lui, il pense que non.
Oui, c'est ça. Mais une fois qu'il sera mort, il ne saura plus tout ça.
Oui, il ne saura pas. Hein,
il ne saura pas qu'il a été...
Et je crois que c'est comme ça qu'on peut être touché par lui. C'est parce qu'il le dit souvent qu'il est l'homme qui n'est pas parvenu à s'arrêter, l'homme qui a arpenté la terre entière sans jamais parvenir à étancher sa soif. Ben, face à la destruction, à la violence qu'il a déployée, on peut pas s'apitoyer, on peut pas sympathiser. Mais face à ce dernier moment où il n'est qu'un homme seul qui meurt et qui espère continuer à vivre, ça, je crois qu'on peut comprendre.
Ouais. Mais finalement, il tombe dans les travers de tout le monde, de toute façon.
Mais c'est là aussi, justement, vous en parliez, j'ai envie de rebondir, c'est aussi là qu'il y a une spécificité dans ce spectacle, c'est que finalement, en général, c'est pas l'angle qui reste sur Alexandre le Grand. Finalement, les massacres ont été polis avec le temps. Ce qui nous reste, c'est Alexandre le Grand tel qu'il a marqué l'histoire. Et le spectacle nous permet de revoir que, en fait, pour marquer l'histoire, il a fallu qu'il soit monstrueux.
Tout à fait. Il y a quelque chose dans ce face-à-face qu'il propose dans le texte qui, pour moi aussi, m'a touché dès le départ. C'est-à-dire que ça parle du théâtre. Le personnage commence en disant « Silence, qu'est-ce que vous attendez de moi ?» Et il finit en disant « J'aimerais continuer. » Donc il y a quelque chose d'extrêmement concret là-dedans. Et c'est pratiquement, ça s'applique pratiquement dans chaque tableau. Il y a des phrases comme ça qui parlent du rapport de l'acteur à la salle. Et, Eh ben, ça me fait penser à cet entretien avec Philippe Noiret au feu de la rampe que je comprenais pas à l'âge de 20 ans quand l'intervieweur lui dit vous regrettez monsieur monsieur Noiret, il dit on rate beaucoup vous savez. Et je comprenais pas on rate beaucoup. Et en fait, il parlait des anniversaires, il parlait du mariage de sa sœur, il parlait de tout ce qu'il a dû laisser
de côté.
De côté pour faire ce métier. Et finalement, si on peut entendre ça chez un grand conquérant, que au fond il a laissé les petits plaisirs de la vie de côté. Pour un idéal de grandeur.
Ouais, mais que éventuellement ça le laisse lui de côté à la fin.
Ouais.
Ouais, c'est ouais, ça le prix à payer. Ouais. Ouais. J'avais ma deuxième expression qui est le coma des mortels.
Ouais.
Elle est dit dans la et j'ai trouvé et en fait ça m'a fait réfléchir, cette expression elle est très belle.
Ouais.
Elle est dense en sens parce que elle dit on peut voir le fait que c'est le coma de tout le monde mais en même temps que le coma des mortels c'est n'importe qui.
Bien sûr.
Sauf eux. Ouais. Ouais. Mais ça n'empêche qu'a priori, ils n'échappent pas non plus ces noms communs du mortel, des mortels au commun des mortels. C'est que marrant. Et là, on se retrouve avec l'égalité de tout à l'heure.
Ouais. Ouais. Je pense que c'est important que ça soit en tout début de spectacle. Alexandre se distingue de ceux-là. Donc, il dit des corps creux dans lesquels sifflait le vent, des hommes, des n'importe qui sont passés devant toi en s'adressant à la mort. Mm. Il dit, moi, je ne suis pas de ceux-là. Ouais. Moi, je vais te raconter.
Ouais. C'est très beau. Bah, écoutez, merci beaucoup. Je ne sais pas quels sont vos... Qu'est-ce que vous allez faire par la suite? Vous pouvez nous le dire, peut-être pour...
Oui, bah, là, je vais rentrer à Montréal et je vais déménager. Donc, déjà, ça sera ça. Et ensuite, j'embarque sur une production avec des potes. Et c'est une lecture-spectacle de 12 heures. Qui retrace la grande famille du plateau Mont-Royal de Michel Tremblay. C'est un spectacle qu'on fait déjà depuis plusieurs années.
Ok, donc ouais. ça sera forcément au Québec.
Forcément, ouais.
D'accord. Ouais. Ben, merci beaucoup.
Merci.
Au revoir.
Merci Emmanuel Schwartz. On va maintenant passer aux chroniques.
Ouais. Il y a une petite chanson avant.
Après la musique, oui, pardon. Je suis... Donc la musique est de circonstance. Si vous n'êtes pas République ou la jeunesse emmerde le Front National, vous écoutez Porcherie, les Berruriers Noirs sur Radio Campus et c'est Pièces Détachées, l'émission du spectacle vivant à la radio. On passe aux chroniques.
Il s'agit d'une histoire, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un concept d'histoire.
Alors, dans les chroniques, tout d'abord, le spectacle « Oui » de Cécile Pote, d'après Thomas Bernhardt, une pièce qui se joue à l'Odéon, mais dans les ateliers de l'Odéon, dans le 17e, jusqu'au 15 juin, et c'est moi qui y suis allé. Alors, c'est un spectacle assez... dérangeant au départ, puisque on a encore comme dans l'interview, un seul en scène assez particulier dans sa disposition. On a presque l'impression quand ça commence que c'est pas complètement commencé, et puis finalement on se laisse entraîner par ce texte, par cette mise en scène. Alors le dossier de presse explique qu'il y a vraiment une passion à la fois de Claude Duparfait et de Cécile Pote pour ce texte, et on les comprend. On est complètement emporté par cette narration, par cette histoire d'amitié qui est... on se demande si c'est pas une histoire d'amour. C'est un personnage qui est rongé par sa culpabilité d'avoir été sauvé par quelqu'un qui en réalité il n'a pas sauvé. C'est vraiment un spectacle très fort avec cette violence domestique, avec une envie de partage. Et vraiment, c'est la première réflexion que je me suis faite en sortant, ça a été de j'ai vraiment aimé et je ne saurais pas. Et la deuxième était de comment je vais faire pour expliquer pourquoi j'ai aimé ça une fois que je serai à la radio, parce que je m'en sentais incapable. J'ai juste passé un moment. Alors terriblement agréable.
Pour certains auditeurs, le fait de savoir que c'est un texte de Thomas Bernhardt donne tout de suite un peu le style, s'ils le connaissent. Donc forcément, ça peut déjà aider un peu.
J'imagine
que c'est quand même assez fidèle, non?
Alors, je dois avouer que je ne l'ai jamais lu.
Non, celui-là peut-être, mais tu as déjà lu du Thomas Bernhardt ou pas?
J'ai dû en lire, mais c'est vraiment très lointain.
Ouais, parce que en gros, c'est connu pour avoir son style un peu saccadé. Mmh. Ça donne cette impression-là, donc c'est assez puissant de ce point de vue-là.
Ah, le texte est très puissant, et la voix de Claude Duparfait qui parle à quelqu'un qui est censé l'écouter, il semble par moment nous parler vraiment à nous le public, d'autant qu'il y a ce geste théâtral assez particulier qui consiste à, sur une bonne partie du spectacle, avoir les spectateurs qui sont éclairés, ce qui est plutôt rare, et on se sent beaucoup plus pris à partie par l'acteur, et c'est vraiment en tout cas un moment fort, et j'invite vraiment...
Donc on a un Julien magnanime là, Julien magnanime, Julien enthousiaste.
Bah oui, complètement.
D'accord. Bon.
Et je vais reprendre la parole là en tant que présentateur. Alors, on va parler maintenant de Drumming XXL. Donc ça se jouait, ça ne se joue plus. C'était jusqu'au 9 juin. C'est une pièce chorégraphique d'Anne Teresa de Kersmacher. Ça a été créé en 98. C'est remonté par Clinton Stringer. Et c'était pour le Festival 24 des rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis qui se continue jusqu'au 15 juin. Thomas, c'est toi qui te lances ?
Et oui, je peux me lancer. Alors oui, comme tu l'as dit, Drumming, c'est une pièce d'Anne Teresa de Kersmacher créée en 1998 sur une musique de Steve Reich, tout en percussion, avec ses rythmes qui se chevauchent, se décalent et se recalent. Une chorégraphie assez simple qui déploie une phrase tout en sauts et pirouettes, agrémentée de sourires en coin et de connivences jamais feintes qui vous font sortir de la représentation après une phase de transe avec l'irrésistible envie de danser. La pièce, toujours jouée par la compagnie de Kersmacher, a été remontée et remontée, et c'est ici une version XXL qu'on nous promet, avec pas moins de 70 danseurs au plateau. Idée surprenante, mais dans l'air du temps. Après la mode des solos, qui n'était ni plus ni moins que la réponse du milieu de la danse face à la raréfaction de ses moyens, on voit apparaître celle des reprises de pièces par des écoles, voire des amateurs. On a vu par exemple les remontages de Tragédie d'Olivier Dubois dans cette même veine. Toujours pour limiter les coûts, sous couvert d'offrir un peu de participatif bienveillant. Et il faut le dire, vouloir faire danser par des amateurs ou même des élèves danseurs des partitions déjà ardues pour leurs interprètes originaux relève parfois du courage, souvent de l'inconscience. Le résultat n'est pas toujours au rendez-vous. Ici, ce ne sont pas moins de 3 écoles, et pas des moindres, qui se lancent dans l'aventure. Le Conservatoire de Paris, Parts de Bruxelles et l'École des Sables de Dakar. Et il n'y a pas de miracle. Les élèves n'ont pas tous le même niveau, la même maturité sur le plateau. Il y a des disparités flagrantes qui nuisent au spectacle. On a le sentiment pénible d'assister à un gala de fin d'année. Et pourquoi, à une époque où la sobriété est érigée en valeur, vouloir faire XXL ? Pour que les 70 danseurs puissent partager le plateau de la MC 93, celui-ci a été divisé en 2. Qui a eu cette idée saugrenue qui, de fait, réduit de moitié l'amplitude des mouvements ? Il semble qu'il faille choisir entre cour et jardin. Et 70 danseurs ensemble, voilà qui ne fait que rendre la pièce illisible. Là où il pouvait, dans l'œuvre originale, y avoir des respirations, du silence, des solos, il y a ici une agitation perpétuelle de jeunes gens satisfaits d'eux-mêmes, sans recul aucun sur ce qu'ils sont en train de faire. Et voilà qu'en plus, on offre, peut-être aux plus charismatiques, c'est dire pour les autres, des moments dans la lumière où ils peuvent improviser, laisser libre cours à leur danse personnelle. Bienveillance participative, on vous avait promis. Bien entendu, les élèves de l'école des Sables de Dakar s'adonnent à la danse africaine, cliché quelque peu gênant, ici justifié par le fait que la pièce ferait la part belle aux percussions, même si celles de Reich n'ont pas grand-chose à voir avec le continent noir. La vaine tentative de copier sans réflexion aucune les costumes de la création signée Dries Van Noten donne l'impression fatale d'un spectacle au rabais qui dessert encore plus le projet. La bande-son, enfin, criarde au possible, achève nos oreilles, comme si même un enregistrement décent avait été hors de portée. Oui, nous avons ici éprouvé l'expérience douloureuse d'un gala de fin d'année. Mais au-delà de ça, il reste quelque chose. Il reste ces jeunes gens qui, après la salve d'applaudissements nourrie, comme quoi tout le monde n'est pas d'accord avec moi, viennent dire l'absurdité pour eux d'être là à danser alors que d'autres enfants se font massacrer dans l'indifférence. Il reste ces jeunes gens qui se sont rencontrés, ont vécu ensemble malgré les différences de leur parcours, ont réussi à constituer une communauté. Il reste une salle en liesse qui a pu voir une pièce majeure de la danse contemporaine à un prix modique 6 euros, permettant ainsi à cette discipline de peut-être renouveler son public. Il reste le travail de l'ombre de 3 écoles, et c'est bien ça qui compte, pas le spectacle, pas l'arrivée, mais le chemin. Et ce chemin est des plus beaux. Et Guillaume, tu étais dans la salle avec moi.
Oui, toi t'as pensé quoi, Guillaume, de la fête de l'école ?
Allez, mais moi j'adore les fêtes de l'école.
Voilà.
Bah oui, parce que enfin bon, tu dis que les danseurs sont amateurs, mais bon, moi-même, on m'entend pas ?
Pas trop.
Pas trop, ah, et là vous m'entendez mieux ?
On t'entend beaucoup mieux.
D'accord. Bon, moi-même, moi je fais partie du public amateur, si tu veux. Donc en fait, je savais pas ce truc-là, que normalement, en fait, c'est pas coupé en deux.
Ah non, surtout pas.
D'accord, parce qu'en fait, quand je suis arrivé, j'ai repéré M. Thomas, il était dans le public, hein. Il n'a pas payé 6 euros, hein. Il est venu gratuitement, lui. Et... mais il était assis au milieu et je me suis dit, tiens, j'ai raté un truc. Moi, je me suis mis sur le côté, donc j'ai l'impression que je ratais la moitié du truc. Mais en tous les cas... Moi, je t'ai trouvé sévère parce que je sais que toi, tu l'as vu une soixantaine de fois, ce spectacle.
J'avoue, c'est une de mes pièces préférées.
C'est une de tes pièces préférées. Donc voilà, donc moi, pour une petite intro au machin, là, enfin au machin, attends, à l'œuvre, pardon, parce qu'il faut quand même que j'utilise les vrais mots. Hein, et j'ai trouvé ça très très bien. Et puis j'ai été pris par la musique et puis le rythme, enfin, effréné de toutes ces percussions. Alors effectivement, c'était un peu fort, mais je me suis dit, bah non, c'est cool. Enfin, je veux dire, et, quand même, on s'en taper des machins un peu plus violents au Zénith avec des concerts de métal absolument inaudibles. Là, ça va, quoi. C'est parce que t'as un peu les oreilles tendres. Mais, en gros, non, mais bon, voilà. Et puis bon, après, rajouter à la fin que gna gna gna, c'est dégueulasse de danser alors qu'il y a des gens qui meurent. Oui, je sais, bah, c'est pareil. Moi, j'étais assis, j'ai même pas dansé. Et puis il y a les gens qui meurent. Enfin, je sais même pas ce que je veux dire quand je dis ça. Ça n'a aucun sens. Mais en tous les cas, non, moi, j'ai bien aimé. Je vous conseille d'aller le voir, mais c'est terminé. Et puis c'était gratuit à la Villette. Non, c'était bien. Non, franchement, je te trouve dur, mais comme souvent, et je pense qu'on va avoir une petite discussion après l'émission.
D'accord. Voilà.
Peut-être probablement un blâme.
Okay. Par contre,
donc, est-ce que tu as d'autres chroniques à venir?
Non.
Par contre, faut quand même dire une chose, c'est que les rencontres chorégraphiques, effectivement, ça c'était un spectacle, mais il y en a encore quand même jusqu'à la fin de la semaine.
Et c'est vraiment le moment de découvrir énormément de travaux hyper intéressants pour la danse contemporaine aujourd'hui. Il n'y a pas que des reprises.
Voilà. Eh bien, on continue les chroniques et on continue avec un autre festival, les Scènes ouvertes à l'insolite, c'est-à-dire la 15e biennale de la scène marionnettique émergente. Déjà rien que ça, la scène marionnettique émergente, ça fait envie. C'est proposé par le Moustard.
Pas pour tout le monde.
Ah, si, marionnettique, c'est magique comme mot. Ouais. Alors, c'est proposé par le Moustard en partenariat avec le Théâtre aux mains nues. Et c'était du 3 au 8 juin, avec deux spectacles, Viva, de la Locas Company, et Suzy, compagnie... Xana la guerrière ? Xana princesse
Xanax,
guerrière ?
Princesse Xanax princesse guerrière.
Ah, il manque un X.
Ouais.
Xanax princesse guerrière.
Ça, c'est que deux spectacles parmi tous ceux qu'il y avait. Hein.
D'accord. Bon, Alice, qu'as-tu vu ?
Bah moi, j'ai fait un parcours comme il proposait des parcours. Donc, je suis allée voir deux spectacles. Le premier spectacle était au Théâtre Moustard, intitulé Suzy, d'après le texte de Suzy Stork de l'autrice Magali Mougel, interprétée par Eve Bigonda. L'idée, en fait, de ce festival, c'est de faire connaître des jeunes qui se lancent dans le métier, des jeunes marionnettistes, ou enfin plutôt aussi des compagnies qui se lancent dans le métier, d'où l'émergence, voilà, d'où le titre. Donc je suis allée voir ce texte-là qui s'appelle Suzy, interprété par une jeune marionnettiste talentueuse, Eve Bigonda, qui joue seule en scène plusieurs personnages, incarnés aussi par deux marionnettes, le mari qui a une tête d'éponge et la mère une tête de chiffon. C'est le récit d'une femme au foyer qui part en cacahuète complètement. C'est désespérant. Ça te plairait, Guigui, je pense. Et on comprend pourquoi en l'écoutant. C'est très bien joué. La mise en scène est pleine d'inventions.
Guigui comprend pas pourquoi les femmes au foyer, c'est censé lui plaire.
T'aimes bien les trucs désespérants.
Non, il aime les cacahuètes. Toi. C'est pour ça qu'elle a dit ça.
Mais non, c'est parce qu'il aime bien
les
trucs désespérants.
Bah oui.
Bah voilà. Bon, du coup, vous m'avez perdu là. Oui, donc les voix intérieures de Suzy sont diffusées. Ça, c'est les inventions qu'elle a trouvées, que j'ai trouvées intéressantes. Donc, ces voix intérieures, quand même, sont diffusées. Vous me déconcentrez là. Dans un poste radio. Et cet effet met en valeur la profondeur de ses doutes. Le malaise profond que vivent silencieusement bien des femmes dans le choix d'être mère. Ce rôle attendu d'elle par sa famille, elle le joue à contre-cœur jusqu'au débordement. Son désir d'indépendance reste inassouvi. Elle joue alors avec son unique costume représenté par un horrible t-shirt rose qui la désigne comme 100% maman. Le besoin d'exister pour soi est plus fort et pourtant elle n'a pas les ressources pour s'échapper des stéréotypes qui forment la prison dans laquelle ses proches l'enferment. À l'issue du spectacle, je me dis intérieurement, si seulement elle avait entendu Françoise Dolto dans son poste radio... Un peu plus tard, je repense aussi à un livre jeunesse qui est écrit par Claude Ponty, je ne sais pas si vous connaissez cet illustrateur, qui a eu l'enfance maltraitée et qui a écrit un catalogue de parents pour les enfants qui veulent en changer. Enfin, c'était épouvantable hein, le sujet. Et je repense aussi au psychologue anglais Winnicott, non dénué d'humour, qui avait écrit un texte justement pour les parents désespérés. Je pense à toi, Michel Carton, sur les quelques raisons de haïr son enfant. Après tout, pourquoi serions-nous tous des bonnes mères ou des bons pères, n'est-ce pas ? Je me rappelle de ma mère qui avait dû interrompre ses études car ma sœur avait, à ce moment-là, été en très mauvaise
passe. Elle a vu le drôle d'idée de naître.
Non, elle était dans une mauvaise pente, ça arrive. Et au comble de l'insolite... Oui, pardon, parce qu'on était dans un festival autour de l'insolite. Vous me perdez, là. Oui, suite à ce spectacle, on m'annonce que le prochain spectacle est dans un tiers-lieu qui s'appelle Césure et qui est l'ancienne fac d'espagnol de ma mère. Je fais, c'est pas possible, alors que j'étais dans ces souvenirs bizarres. Et je vais voir Viva. Donc, Viva, qui se passe dans un amphithéâtre. Et c'est ce lieu était vraiment pertinent pour partager une telle histoire et entrer dans la grande histoire. Viva, c'est l'histoire de Pépé et de sa femme Maria au moment de la chute du Front Populaire, à l'issue du coup d'État de Franco et pendant la dictature qui dure près de 40 ans. Un couple d'artistes raconte chacun à son tour leur vision des faits de l'histoire du grand-père et de la grand-mère du comédien. L'histoire d'un féminicide, de milliers de crimes impunis ensevelis sous le silence des non-dits. La forme choisie du théâtre d'objets est parlant, s'échappe des tiroirs du bureau de l'artiste qui était aussi avocat, les souvenirs cachés sortent du lit, débordent du tapis, interprétés par une armée de crayons à papier. Oui, parce qu'en fait, c'est aussi un théâtre d'objets. Donc interprété par des crayons à papier, le public retenait son souffle lors des exécutions sommaires effectuées par un taille-crayon à forme d'échafaud. Oui, parce que c'est un théâtre à tiroirs pour petits objets et grandes histoires, disent les comédiens, qui étaient comme des architectes d'un passé enseveli. Ils menaient une enquête avec une maison, la maison de son enfance, qui était sous forme de carton.
Michel.
Ouais. Ah ouais, c'est exact. Ah mais c'est... j'avais pas fait le lien. Ah
bah. Il y a trop de coïncidences.
Ouais, non mais c'est franchement c'est incroyable. Donc cette histoire fait écho à ce que j'ai entendu aussi de ce que me disait ma mère quand elle habitait en Espagne pendant la période de Franco, et elle me racontait que ses amis étudiants un peu trop critiques du régime se faisaient rouer de coups sous des couvertures pour ne pas laisser de traces, et le spectacle s'achève sous les couvertures, le tapis de la scène se transforme en couverture, coup de théâtre. Je me dis, c'est pas possible. À la fin, en démontant le décor, je traîne un peu autour des régisseurs qui dit, y en a un qui dit qu'il confond sa droite et sa gauche. Et le régisseur, son collègue, lui dit, enfin, fais attention, parce que les élections avaient lieu le lendemain, de ne pas se tromper de droite ou de gauche. Et là, aujourd'hui, le Front Populaire se reconstitue. Alors, ne vous trompez pas, les gars, car on l'a vu dans le spectacle, la perte de liberté, la perte de jouir de son corps est bien palpable.
Et on passe tout de suite la chronique.
La capsule, juste pour dire ça. On n'aura pas le temps ensuite, donc on vous salue, on finit avec la chronique.
Ils jouent en Avignon, allez les voir, c'est magnifique.
C'est vrai. C'est
Viva,
vrai.
Voilà. Hasta la victoria.
Ouais. Et donc en septembre, si Jordan n'est pas Premier ministre.
Voilà. En septembre, ouais, fin septembre.
Quand un danseur disparaît, qu'emporte-t-il avec lui ? Ou plus exactement, de quoi sommes-nous démunis, orphelins ? Les yeux embués, j'écris ces lignes sous le choc silencieux du départ d'un maître à danser. C'est comme un maître à penser. La liberté en plus. L'allant vers une dansée pensée avec la liberté chevillée au corps. Avec sa compagne de vie et de combat, Françoise, ils habitaient l'Olympe puissant de la danse qui meut tout à la fois l'espace et la matière grise, la carcasse et l'esprit. J'ai encore peu de mots pour enfanter du manque. Le maître à danser laisse le manque à danser. Et je trouve que c'est un joli terrain aussi, le manque. Avec cette disparition, je vais apprendre, nous allons apprendre à faire sans, mais à continuer tout de même. Foi, corps, combat dans le même hôtel pour la danse. Saint-Sépulcre et Fontanelle, nous continuerons à la verticale de nos âmes, à en danser tous les temps de la vie. Mettre en perspective leur départ m'a fait songer au départ qu'ils ont eux-mêmes vécu. Comment ont-ils traversé la perte de celui que l'on appelait le danseur rouge, Jean Weidt, qui enseigna dans le salon des Dupuis au jeune Dominique son premier apprentissage en danse, puis celui, bien après, de Jérôme Andrews. Songèrent aux disparitions auxquelles ils ont dû faire face, m'a redonné une force. Celle de penser que, bien sûr, l'exigence de la continuité était inscrite dans leur corps, sans négociation, car il y est question de survie. La danse n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Alors, je vais, nous allons vêtir nos plus beaux habits d'humbles serviteurs au service d'un mouvement de danser, penser, qui nous dépasse et qui n'existe que pour être prolongé. La mort n'étant que l'expire, avant la prochaine inspiration. La jeune fille qui a poussé les portes des rencontres internationales de danse contemporaine l'année de ses 18 ans vous dit merci pour les danses qui l'attendent aujourd'hui et demain. Nous nous attelons au combat. Les lectures qui suivent de Paul Valéry et Dominique Dupuis avec les voix des danseuses Théodora, Virginie et Chloé. Merci à elle, depuis une loge de l'Opéra de Rennes.
Est-il vraiment incongru de pleurer ?
De pleurer.
D'aimer pleurer ?
D'aimer les larmes à en pleurer ?
À en pleurer.
Que de pleurs n'ai-je pas réprimé dans ma vie ?
De joie comme de peine.
Je pleure aux enterrements de ceux que j'ai connus.
Aux enterrements de ceux que j'ai connus.
Et qui sont perdus pour moi.
Mes larmes appellent d'autres larmes.
Mes larmes appellent d'autres larmes.
Celles que je n'ai pas pleurées. Je pleure de pleurer. Et les larmes s'ajoutent aux larmes.
S'ajoutent aux larmes.
Sont-ce ces pleurs
que je danse depuis 70 ans.
Que je danse depuis 70 ans.
Que j'ai transposé et transpose encore dans les gestes que je fais.
Vient le silence.
Silence. Silence.
Puis viennent les larmes. Puis
la danse.
Est-ce que je danse les pleurs que je ne peux pleurer ?
Vit-on jamais un danseur pleurer en scène ? C'est dans sa danse que ses pleurs s'énichent.
La danser appartient à la famille de ces mots qui évoquent une action.
La danser.
Non un résultat, mais un élan, une trajectoire.
Une trajectoire.
Lancer, fouler, enjamber, brasser, ou encore la trouer, la percer, la monter, l'échapper, la tomber, la voler, la couler.
La couler.
Tous les gestes du danseur.
Tous les gestes du danseur.
Pour moi, la forme féminine ajoute à l'action. Comme si l'énergie féminine,
le yin,
venait à la rescousse de l'énergie masculine,
le yang.
Pour plus de complétude. Ainsi, dans le domaine de la danse, le danser, c'est l'action simple de celui qui danse.
C'est l'action simple de celui qui danse.
Pour lui. Dans son coin.
Dans son coin.
Mais la danser, c'est toute autre chose.